autour de la question. D'où ça vient ?
Qu'est-ce que ça va changer ?
C'est pour qui ?
À quoi ça sert ?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver, chers amis auditrices et auditeurs, pour nous interroger en ces temps troublés sur la nécessité de l'ordre, mais aussi du désordre, et ce à toutes les échelles, depuis les brins d'ADN jusqu'au vol des étourneaux, en passant par les bancs de sardines ou les facettes d'un diamant. L'ordre est omniprésent dans la nature. Il nous émerveille et nous fascine jusqu'à l'obsession, jusqu'à vouloir l'imposer, cet ordre, à tous et surtout aux autres, humains comme non-humains, quitte à oublier que si la vie ne peut émerger sans ordre, elle ne peut pas non plus évoluer sans désordre, comme nous allons le découvrir avec notre invitée, la physicienne Catherine Bréchignac, ancienne présidente du CNRS, qui nous rappelle à l'ordre et à l'utilité du désordre. Dans son dernier essai, « La sardine et le diamant », paru aux éditions du Cherche Midi, autour de la question « Y a-t-il un ordre et un désordre naturel ?» Bienvenue pour nous interroger ensemble.
Est-ce que le désordre est en soi ou est-ce que c'est une absence de compréhension d'un ordre sous-jacent ? Et de même pour l'ordre, est-ce que l'ordre masquerait aussi un certain désordre ? En tout cas, ce qui est intéressant avec le vivant, c'est que justement, et on peut penser à l'évolution des espèces, c'est que le désordre et l'ordre sont complètement encastrés l'un dans l'autre.
De l'utilité de l'ordre et du désordre, c'est le sous-titre de votre essai, Catherine Bréchignac. Bonjour.
Bonjour Caroline.
Merci Catherine d'être en direct avec nous par téléphone, confinement oblige, pour partager vos interrogations et vos réflexions sur notre fascination pour l'ordre, cet ordre que l'on voit à l'œuvre dans la nature, mais qui, comme le rappelait à l'instant la philosophe Joëlle Zask, est toujours intriqué, accompagné d'un certain désordre, lui aussi essentiel à la vie. Et c'est vraiment là qu'on a besoin de vos lumières, Catherine Bréchignac. Je rappelle que vous êtes physicienne, membre de l'Académie des sciences et de l'Institut de France. Vous avez été directrice générale puis présidente du CNRS, le Centre National de la Recherche Scientifique, et vous venez de publier, après l'irrésistible envie de savoir, toujours aux éditions du Cherche Midi, cet essai qui nous interpelle aujourd'hui, la sardine et le diamant. Alors quel lien entre un banc de sardines et les multifacettes d'un diamant, Catherine Bréchignac ?
C'est justement l'ordre. Les sardines, c'est ça qui est extraordinaire, quand on voit ces millions de sardines qui se déplacent toutes ensemble. Elles sont en ordre. Elles sont en ordre, pas un ordre rigide, mais un ordre mouvant. Et le diamant, lui, c'est un ordre parce que les atomes sont les uns à côté des autres. C'est un ordre parfait, immobile, statique, qui donne des cristaux magnifiques. Donc les deux sont en ordre. Pourquoi cet ordre ?
Pourquoi cet ordre ? Vous donnez d'ailleurs, c'est compliqué à donner une définition de l'ordre parce qu'on y viendra, il y a énormément d'ordres différents, mais pour qu'on comprenne de quoi vous nous parlez, vous ouvrez votre ouvrage, La sardine et le diamant, avec un petit jeu, le jeu du portrait chinois. Alors je vais le lire à nos auditeurs parce que vraiment je trouve que ça permet de comprendre très bien cette question de l'ordre. Si j'étais une fleur, je serais Marguerite. Si j'étais légume, je serais un chou-fleur. Si j'étais oiseau, je serais un ibis chauve ou un étourneau. Si j'étais un poisson, je serais une sardine. Si j'étais une pierre, je serais un diamant. Et si j'étais éphémère, je serais un flocon de neige. Si j'étais une molécule, je serais ADN. Qui suis-je ? L'ordre. Cet ordre, il est multiple, Catherine Bréchignac. Il est plus facile à définir que le désordre. Finalement, comment vous le définiriez, cet ordre que l'on voit à l'œuvre partout dans la nature et sous toutes ses formes ?
Alors, l'ordre, en fait, au départ, on pensait que l'ordre était quelque chose d'imposé, qui existait a priori. Et donc, petit à petit, en essayant de comprendre, on s'est rendu compte que c'était l'interaction entre les éléments qui imposait l'ordre. Je ne parle pas de l'ordre fait avec les humains, hein. Ça c'est une autre histoire. Je parle de l'ordre des choses, l'ordre naturel. Donc au fond, l'interaction entre... Vous avez un ensemble d'éléments, et ces éléments sont en interaction entre eux. Et puisqu'ils sont en interaction entre eux, ils vont essayer de se mettre dans une position qui va minimiser l'effort à fournir. Et c'est ça qui va donner l'ordre. Donc l'ordre va être multiple, il va dépendre de l'interaction entre les éléments.
Donc l'ordre, vous le dites aussi d'une autre manière dans cet ouvrage, l'ordre c'est ce qui, la meilleure manière de faire une structure. Et pour faire une structure, le vivant, tout le vivant et même la matière doit s'organiser en structure, et l'ordre, ce serait la structure.
Voilà, l'ordre un peu c'est le squelette et le désordre c'est le mouvement.
Ah, le désordre c'est le mouvement. Joël Zaske que l'on entendait, cette philosophe me demandait aussi si on rapprochait aussi le désordre de l'imprévisibilité.
Alors le désordre peut être d'imprévisible. Si vous avez un mouvement aléatoire, vous pouvez être dans l'imprévisible. Mais le désordre, c'est plus le mouvement, alors que l'ordre, c'est plus la structure. Et pour vivre, vous avez besoin d'un squelette, d'une structure et du désordre.
Ah, voilà.
Et tout est comme ça. Donc l'ordre et le désordre sont extraordinairement intriqués.
Il nous fascine, hein, l'ordre. À nos auditeurs en Mauritanie, vous venez peut-être d'ailleurs de répondre à sa question, à Nouakchott, nous dit « Mais l'ordre et le désordre ne sont-ils pas que des mots issus de notre interprétation ? N'y a-t-il pas quelque chose de parfait derrière tout cela ?» Alors, je ne sais pas ce qu'il entend par ce parfait, mais c'est vrai, quand vous dites c'est intriqué, la vie, le vivant, c'est à la fois de l'ordre et du désordre.
Voilà, voilà. Mais tout est de l'ordre et du désordre. Par exemple, dans les cristaux, qui sont magnifiques, qui sont un ordre presque parfait, eh bien la couleur des pierres précieuses vient du fait que vous avez un atome qui est changé par un autre, donc un petit désordre.
Donc l'ordre et le désordre sont partout à l'œuvre, sauf que nous, on y reviendra aussi au cours de cette émission, nous humains, on voit plutôt l'ordre, ou on est plutôt fasciné par l'ordre plus que par le désordre.
Oui, parce que en fait, évidemment, ce que je dis dans mon livre, c'est qu'il y a deux types de désordre, mais il y a aussi plusieurs types d'ordre, mais il y a deux grands types de désordre. Le désordre fécond, c'est-à-dire celui qui pousse au mouvement, celui qui va engendrer des structures ordonnées, et puis le désordre stérile, qui est un désordre de mise en vrac, comme une poubelle où vous mettez tout et n'importe quoi, n'importe comment. Donc ça, vous n'avez plus d'ordre, plus de désordre, c'est du chaos.
Et vous faites une différence entre le chaos, l'ordre et le désordre. Le désordre n'est pas le chaos pour vous.
Non, non, le désordre n'est pas le chaos pour moi. Mais bon, le chaos en physique, c'est une autre histoire. Mais je parle du chaos au sens commun du terme.
Mais ce qui nous fascine, nous, dans l'ordre, et quand on a joué à votre portrait chinois, on le comprend bien, c'est ces formes, c'est cet ordre qui est magnifique, que ce soit un chou-fleur, que ce soit un banc de sardines, que ce soit une nuée d'étourneau, ou que ce soit un diamant, ou que ce soit un petit flocon de neige. C'est assez sublime, cet ordre que l'on voit à l'œuvre dans la nature.
Oui, et il est vraiment dû au fait, par exemple, quand vous voyez un vol d'oiseau migrateur en V, pas le vol des tourneaux. Le vol des tourneaux, c'est de l'auto-organisation. Mais vous voyez le vol en V, qui est un vol hiérarchisé, magnifique, très rectiligne, donc on dirait une figure mathématique. Eh bien, cet ordre est là, et c'est ce que je dis dans le vol des ibis chauves, cet ordre est là pour minimiser l'énergie que fournissent les oiseaux pour migrer. C'est-à-dire qu'en fait, on a fait des études au CNRS qui sont extrêmement intéressantes, qui montrent que dans un vol en V, l'oiseau de tête avait un cœur qui battait plus vite que le reste, mais les autres ont un cœur qui bat à 20% moins vite que leur vol lorsqu'ils sont tout seuls. Donc en fait, ils économisent de l'énergie, ils économisent de la force en se mettant ainsi. Et ils utilisent les courants et toute la. On a fait des calculs d'hydrodynamique, mais évidemment les oiseaux ne les font pas, mais ils le sentent. Et ils se mettent dans cet ordre-là qui leur minimise le travail. Au fond, on est tous des paresseux et on a envie de minimiser le travail, donc on se met en ordre pour le minimiser. Voilà.
De l'utilité de l'ordre, mais aussi voilà. Du désordre. On continue de s'interroger, cette fois-ci avec Alain Chamfort sur RFI. On écoute le désordre des choses.
Pas le talent, c'est juste le hasard. Pas les liens du sang, non, rien que le hasard. C'est pas l'expérience, même si on aime le croire. Pas même l'intuition, c'est le hasard. C'est pas le génie, c'est encore le hasard. Tout ce qu'on nous a dit, c'était la belle histoire. Oublie l'essentiel si tu veux savoir. La seule étincelle, c'est le hasard. c'est dans le désordre des choses. Des bouquets d'atomes qui explosent. Des répulsions et des symbioses. L'univers, je suppose, qui compose. C'est dans le désordre des choses. Des bouquets d'atomes qui explosent. Des conséquences suivent les causes. L'univers virtuose qui compose. C'est pas le divin, ça s'appelle plutôt le hasard. Ça te tombe dessus ou pas, point barre. C'est le quotidien, un jour c'est rouge, un autre noir. Comme à la roulette, comme par hasard. Le ciel et la terre, tout ça c'est du hasard. Il n'y a pas de mystère, il n'y a que des hasards. Que des accidents, parfois même du grand art. Pas de Dieu le Père, non, nulle part.
Dans le désordre des choses, avec Alain Chamfort sur RFI. Autour de la question, y a-t-il un ordre et un désordre naturel ? Nous sommes en compagnie de la physicienne Catherine Bréchigna, qui vient de publier « La sardine et le diamant », sous-titré « De l'utilité de l'ordre et du désordre ». À toutes les échelles, dans l'infiniment petit comme dans l'infiniment grand, je vous propose, Catherine Bréchigna, un nouvel éclairage. C'est celui de l'astrophysicien Roland Lehoucq, du CEA, recueilli par notre reporter Inès Edel Garcia. Roland Lehoucq, qui a même une question forcément un peu brillante à vous poser.
Ordre et désordre, pour un astrophysicien, c'est évidemment une question comme beaucoup en physique, en fait, c'est pas propre aux astrophysiciens, aux astrophysiciennes, évidemment. C'est une question extrêmement importante, et surtout quand on la voit en la avec la perspective de la vie sur Terre. La vie qui est une structure ordonnée, qu'elle soit bien sûr la vie humaine, mais la vie en général, qui est une structure ordonnée, et dans l'idée que dans l'univers, normalement, l'entropie, donc une mesure du désordre, doit augmenter, alors que la vie, c'est clairement une réduction de ce désordre. Eh bien, j'ai toujours trouvé fascinant l'idée que, finalement, la vie utilise une forme d'énergie peu désordonnée, l'utilise, elle part de la lumière du soleil essentiellement pour la vie photosynthétique, et puis produit une forme d'énergie très désordonnée, la chaleur, et entre les deux, elle a un peu siphonné cet ordre pour elle-même. Et donc cette idée-là que finalement, la source solaire pour notre vie terrestre et le fond diffus cosmologique, finalement, pour la partie froide, pour la source froide, la vie est une sorte de, entre guillemets, machine thermique qui profite de l'un au détriment de l'autre pour sa propre évolution. Alors, Catherine Bréchignac, j'ai une question pour vous. Je pense qu'elle est très élémentaire, mais je la trouve toujours aussi fascinante. C'est de réaliser que le graphite et le diamant, c'est du carbone pur et éventuellement du carbone quasiment pur. Et pourtant, ça se présente sous des formes très différentes quand on les regarde et bien sûr à des prix évidemment très différents aussi. Et donc, c'est toujours aussi fascinant de comprendre quelle est la différence finalement entre le carbone graphite et le carbone diamant.
Alors Catherine Bréchignac, expliquez-nous la différence, outre le prix, hein, entre le carbone graphite et le carbone diamant.
Carbone graphite et carbone diamant. Le carbone graphite, c'est un carbone qui est mis de manière hexagonale. C'est-à-dire, en fait, comme quand vous pavez un sol avec des hexagones, vous pouvez faire un pavage parfait, plan, c'est des hexagones. C'est ça le graphite, la feuille de graphite, c'est des atomes de carbone mis sous forme d'hexagone. Le carbone diamant, lui, c'est plus un cube. Donc, vous allez avoir un système où les atomes vont se mettre sous forme de cube. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Quand vous allez être à forte pression, forte température, la tendance à minimiser l'énergie, ça va être le diamant. Mais quand vous allez refroidir, la tendance va être le graphite. Simplement, le passage du graphite au diamant demande une telle énergie que finalement, le beau diamant ne va pas se transformer instantanément en graphite, mais va rester diamant. Mais en fait, c'est une forme métastable. D'ailleurs, dans le milieu interstellaire, vous avez énormément de carbone, bien sûr, parce que c'est un élément très abondant. c'est pour ça que la vie est formée aussi à partir du carbone, vous allez avoir des plans ou des structures sphériques avec des pentagones. Alors cette fois-ci, parce que pour faire une structure sphérique, il faudra un pentagone, vous allez avoir ces structures qui vont être beaucoup plus proches du graphite que du diamant.
C'est évidemment pas par hasard, hein, si l'astrophysicien Roland Lehoucq vous a posé cette question, c'est parce que l'un est plus stable que l'autre, l'un est plus ordonné que l'autre.
L'un plus stable que l'autre à la température à laquelle nous sommes, c'est-à-dire dans une température relativement froide et une pression relativement, la pression sur la Terre, le graphite est plus stable que le diamant, c'est évident.
Et voilà pourquoi peut-être le diamant, le carbone diamant est plus rare et plus cher. Alors l'ordre, on l'a dit, c'est la structure, hein, pour le dire très simplement. Et puis donc sans ordre, sans structure, pas de vie, hein, oui. Mais même dans la matière, hein, aussi. On reviendra un peu plus tard au désordre, hein, qui est cette question du mouvement. Peut-être commencer par le bon ordre, si j'ose dire. Cet ordre donc qui soit visible.
Il n'y a pas de bon ordre et de mauvais ordre.
Ah,
hein,
très bien. Merci de nous le rappeler. Il n'y a pas de bon ordre et de mauvais ordre. Il y a différents ordres.
Oui, il y a de l'ordre. Il y a des ordres multiples.
Il y a plein d'ordres multiples et plein de désordres multiples. Alors, vous les énumérez, hein, tous ces ordres différents. On a parlé du vol d'ibis chauve. Il y a aussi le déplacement d'un banc de sardines, l'ordre cristallin du côté des diamants. Et puis, il y a aussi, en mathématiques, il y a l'ordre des nombres, hein, avec la fameuse suite de Fibonacci. Mais il y a vraiment un ordre des nombres aussi. Il y a plein d'ordres différents autour de nous.
L'ordre des nombres, c'est un peu un ordre de taille, c'est-à-dire qu'en fait, ou de quantité. Et les mathématiques, c'est des nombres qui permettent de faire des choses quantitatives. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est pour ça que je l'ai mis avec les mathématiques, j'ai mis les Bernard l'Ermite. Parce que les Bernard l'Ermite, pour changer de coquille, puisqu'ils ne la fabriquent pas eux-mêmes, ils vont prendre celle des autres, ils se mettent en ordre à côté d'une coquille. Et c'est le plus gros, celui dont la taille va correspondre à celle de la coquille qui va se mettre le premier dedans, il va laisser une coquille vide, le suivant va la mettre, etc. Donc ils sont capables de se mesurer. Et la mesure, c'est des nombres mathématiques.
Comme quoi on retrouve...
Alors ça ne veut pas dire que les Bernard l'Ermite savent compter, hein. C'est évidemment que non. Mais ils ont des antennes qui leur permettent de se mesurer les uns par rapport aux autres.
Et pourquoi c'est si important? Vous l'avez déjà dit, hein, cet ordre, c'est la structure, c'est le squelette, c'est aussi ce qui permet, en ordre, hein, il n'y a pas de bon ordre, mais de faire des économies d'énergie, hein, d'être le plus efficace finalement. C'est ça la raison, entre guillemets, de cet ordre magnifique que l'on voit partout sous différentes formes à l'œuvre, dans la nature comme dans la matière?
Oui, c'est le fait de se mettre, c'est comme quand vous parcourez une montagne avec des collines et des vallées. Eh bien, si vous vous mettez dans un trou, vous avez du mal pour remonter la barrière pour vous mettre dans un autre. Eh bien, ce que recherche finalement le système, c'est de se mettre dans le trou le plus profond pour être tranquille. Et le désordre aléatoire, la marche aléatoire, comme on l'a entendu dans la chanson précédente, c'est au fond, le fait d'explorer l'espace. C'est pour ça que moi, j'aime pas quand on dit le mouvement brownien, c'est du désordre. Non, c'est surtout de l'exploration de l'espace. L'aléatoire vous permet de mesurer de se promener dans l'ensemble de l'espace et donc finalement d'aller là où c'est le plus stable.
Oui, il s'agit d'explorer l'ordre, c'est la structure, et le désordre peut permettre d'explorer autre chose. On va y revenir, on reste, hein, toujours autour de la question, y a-t-il un ordre et un désordre naturel? On va s'arrêter sur un ordre assez étrange, hein, un ordre fascinant, issu du désordre, qui fait surgir des formes inouïes. C'est l'ordre fractal auquel vous consacrez aussi, Catherine Bréchignac, un chapitre, et pour cause. Je propose d'abord une petite introduction à ce nouvel ordre issu du désordre avec le vidéaste et youtubeur Dr Nozman, extrait de son épisode sur les fractales.
Cette sculpture plutôt cool est donc une structure fractale. Et accrochez-vous, parce que les fractales, c'est un truc assez dingue, vraiment. Le mot fractal vient en fait du latin fractus, qui signifie briser. Une fractale désigne notamment une figure géométrique qui se répète à l'identique quand on change d'échelle. En gros, en zoomant progressivement, on peut observer une répétition de la même forme. Elle possède donc des détails observables à n'importe quelle échelle. En dehors d'objets conçus selon ce modèle, comme cet objet par exemple, il y a des triangles à l'infini, tout simplement, partout, le même motif qui se répète, même à l'intérieur. C'est Splendide. T'as l'impression que cet objet n'a pas de fin. C'est un peu ça le concept, c'est vraiment super beau. Je suis sûr qu'il y en a que ça peut mettre un peu mal à l'aise, et d'autres qui, comme moi, bah ça va fasciner. Donc en dehors d'objets conçus selon ce modèle, comme je disais, ce principe est aussi observable dans la nature. Je suis sûr que vous me voyez venir. Dans les flocons de neige, par exemple, ou les choux romanesco, le végétal, ou encore les fougères. Que la structure soit créée de manière volontaire ou involontaire, ces multiples éléments suivent une logique homothétique, c'est-à-dire un agrandissement ou une réduction proportionnelle. On parle notamment, dans le cas présent, de structures fractales autosimilaires, les amis.
Fascinante fractale à découvrir partout dans la nature, mais aussi dans les vidéos du docteur Nozman. On peut aussi citer, parce que moi j'aime bien ça comme exemple de fractale, Catherine Bréchignac, c'est la vache qui rit avec ses boucles d'oreilles à l'intérieur desquelles il y a encore des boucles d'oreilles. Mais alors ça, c'est évidemment une fractale, pas vraiment une fractale imaginée par l'homme, mais c'est...
Non, ça c'est de l'autosimilarité.
Ah, oui. Ça c'est de l'autosimilarité quand à l'intérieur, oui, on a le même motif. C'est voilà. Pas du tout pareil qu'une fractale qui...
Si, la fractale est formée justement, comme il vient d'être dit, par des formes autosimilaires, c'est-à-dire elles sont autosimilaires à grande échelle comme elles le sont à petite. Et la vache qui rit, c'est ça, c'est-à-dire que dans la boucle d'oreille de la vache qui rit, vous avez une vache qui rit qui a des boucles d'oreilles, qui a encore des vaches qui rit, etc., etc. Moi, je me souviens que lorsque j'étais petite, j'étais fascinée et je voulais savoir jusqu'où on pouvait descendre comme ça.
C'est ça, parce que c'est totalement fascinant ces fractales, c'est d'ailleurs un champ énorme de recherche. Ces fractales, comme le disait Dr Nozman, qui sont, qu'on peut voir dans les fougères, dans les flocons de neige, qu'à toutes les échelles... se maintiennent quoi ? Alors un ordre ou un désordre, c'est quoi ?
Alors c'est de l'ordre issu du désordre. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous prenez des petites billes et vous imaginez l'expérience suivante, vous avez des petites billes et quand, sur un plateau, et quand deux billes se rencontrent, elles se collent et elles s'arrêtent. Mmh. Ou elles vont moins vite, mais en tout cas, prenons comme hypothèse simple, elles s'arrêtent. Bon, eh bien, quand vous lancez toutes ces billes, les billes, elles vont, de manière complètement aléatoire, parcourir la surface. Alors, de manière absolument aléatoire. Et tout d'un coup, crac, elles vont se mettre les unes collées aux autres, et c'est ainsi que vous formez des fractales dendritiques. Donc, c'est un ordre qui n'est pas un ordre parfait, qui n'est pas celui qui aurait les mêmes atomes ou les mêmes billes si on les mettait dans l'état le plus stable possible, mais qui est une forme dite de croissance. Et c'est parce qu'elles viennent du désordre qu'elles sont une forme de croissance. C'est pour ça qu'on la retrouve énormément dans la nature.
C'est un sujet qui interroge, qui fascine, qu'on comprend de mieux en mieux, cette question de l'ordre et du désordre, et de ces, là en l'occurrence, de ces fractales, de ces organisations.
Oui. Oui, oui, on commence maintenant à voir, alors on définit des dimensions fractales, enfin, celui qui a inventé le mot et qui a vraiment commencé à travailler là-dessus, c'est Mandelbrot.
Le mathématicien.
Et donc, lui, il a vraiment donné les bases, parce qu'il fallait essayer de trouver quelle était la grandeur, comment on pouvait caractériser ces fractales. Alors, on les définit par leur compacité, on les définit par leur dimension fractale, on définit, voilà. Et donc, on a maintenant des nombres qui nous permettent de les appréhender, de les comparer entre elles. Et voilà, donc ça nous permet de comparer un peu toutes ces formes qui sont dendritiques et qui existent partout. Hein.
Et qui existent partout. Est-ce que tous les ordres sont...
Par exemple, vos neurones dans le cerveau ont des formes fractales. Ils sont liés les uns aux autres sous forme de fractales.
Est-ce que tous les ordres sont possibles dans la nature ? Là, on voit bien cette question des fractales qui sont donc partout. Hein, et est-ce que tous les ordres sont ou seraient possibles dans la nature, Catherine Bréchignac ?
Je ne vois pas ce que ça veut vraiment dire, tous les ordres sont possibles. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez une interaction, elle va vous définir l'énergie minimale qu'il vous faut pour ne pas dépenser trop d'énergie. Et c'est cet ordre-là, c'est dans cette structure-là que vont se mettre spontanément les éléments. Donc, il n'y a quand même pas une infinité d'interactions. Donc, vous allez avoir, vous allez avoir différents ordres, mais peut-être pas une infinité.
Ce qui est fascinant, c'est que cette organisation, cette structure, donc ce qu'on appelle l'ordre, et on va venir ensuite au désordre, c'est à l'œuvre à la fois dans le vivant, mais aussi dans toutes les matières inertes. C'est aussi l'ADN, hein, que vous donnez comme exemple d'ordre. C'est vraiment à l'œuvre partout, à la fois dans le vivant et dans le non-vivant ou dans l'inanimé.
Oui, tout à fait. Et par exemple, dans l'ADN, c'est pour ça que je dis, on devrait plus dire tu es l'ordre de mon ordre plutôt que de dire tu es le sang de mon sang ou la chair de ma chair, parce que ce que nous transmettons à nos enfants, c'est de l'ordre. C'est de l'ordre des bases de l'ADN.
Ah, tu es l'ordre de mon ordre. En fait, c'est vraiment ça. On transmet de l'ordre avec parfois des petits brins de désordre qui se mettent dedans.
Voilà. Alors, de temps en temps, vous avez un peu de désordre, ça fait une mutation.
Et voilà pourquoi on s'y met à deux pour faire un enfant, parce qu'on transmet deux ordres.
Voilà. Et que comme ça, ça donne une combinaison de nos ordres.
De nos ordres et même peut-être de nos désordres. Allez, on va y revenir à ces désordres aussi. Juste après votre choix musical, tout à fait de circonstance, Catherine Bréchignac, c'est Eric Satie, simplement, autour de la question de l'utilité de l'ordre et du désordre. On écoute un extrait de la Nocturne 2. Et vous nous expliquerez pourquoi. D'une nocturne d'Eric Satie sur RFI, Catherine Bréchignac. Pourquoi ce choix, même si je crois percevoir un peu
les notes de musique sont un peu comme des perles bien agencées, vous les voyez, vous avez l'impression d'ordre et tout d'un coup vous avez un peu de désordre, une note, un changement de ton et vous avez tout d'un coup comme un grain de sel dans du sucre, vous avez tout d'un coup, crac, vous partez dans un désordre et ça vous ouvre à nouveau un énorme champ exploratoire. Et donc, c'est vraiment ce mélange de l'ordre qui est apaisant, qui est un peu comme le raconte Baudelaire, et tout d'un coup, vous avez, crac, un peu de désordre qui vient là, qui va vous emmener ailleurs et qui va vous faire redécouvrir autre chose, un autre ordre ailleurs. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup cette musique.
Eric Satie sur RFI, entre ordre et désordre justement, et c'est peut-être excellent pour le cerveau, pour nous faire réagir, d'avoir de l'ordre pour nous calmer, et de temps en temps un peu de désordre pour nous réveiller et nous faire bouger autour de la question, y a-t-il un ordre et un désordre naturel?
Justement, oui. Actuellement, c'est ce qu'on est en train de préconiser, c'est-à-dire de mettre bien les choses en ordre pour nous laisser des espaces de temps de désordre.
Eh, c'est bien ça, ça c'est à méditer aussi. Allez, je propose maintenant de nous interroger justement sur le désordre et sur son utilité avec un autre physicien, José Allois, du laboratoire interdisciplinaire des énergies de demain à l'université de Paris Diderot, qui s'intéresse à l'émergence des systèmes complexes, hein, des bancs de poissons ou des colonies de fourmis jusqu'aux dunes de sable ou aux sacs de riz. Il cherche à comprendre et à modéliser aussi comment un ordre peut émerger d'un apparent chaos, comment de petites entités, que ce soit des grains de matière ou des individus apparemment désordonnés, peuvent former un système complexe, voire une intelligence collective quand il s'agit du vivant. Mais pour cela, il faut rajouter, comment dire, un ingrédient de taille, sur lequel nous interroge d'ailleurs un de nos fidèles auditeurs que je salue, Miguel Capitao de Brazzaville, c'est le hasard. Alors pourquoi et comment le hasard fait bien les choses? Explication du physicien José Allois.
En fait, ce qu'on le constate, c'est qu'un des ingrédients nécessaires à avoir ces phénomènes d'émergence, c'est qu'il y ait des comportements aléatoires. mais vraiment aléatoire.
C'est à partir du hasard que s'organise l'ordre.
Tout à fait. Et c'est un ingrédient indispensable. Si on avait des phénomènes parfaitement déterministes, on n'aurait pas ces structures, parce que le système serait bloqué dans un seul état. En fait, ce que permet ces fluctuations aléatoires, du hasard, c'est elle permet au système d'explorer son environnement, c'est-à-dire de sortir des solutions ou de découvrir des nouvelles solutions. Et donc, c'est un des ingrédients indispensables. Évidemment, il doit être équilibré. C'est-à-dire, trop peu de hasard mène à des solutions sous-optimales, trop de hasard mène évidemment au désordre total. Et donc, il y a une sorte d'équilibre qu'il faut trouver, le juste milieu de proportion de hasard. Et on constate ça chez les fourmis. Lorsqu'on regarde des fourmis qui suivent des pistes, elles forment des pistes chimiques qu'elles suivent, eh bien, on constate qu'il y a toujours des fourmis qui se perdent. Alors, on se dit, mais elles sont stupides. La piste est pourtant là, les autres suivent, et non, il y a encore des fourmis qui les perdent. En fait, c'est un ingrédient indispensable. Le fait qu'il y ait des fourmis qui se perdent et qui sortent de cette piste va permettre à ces fourmis de découvrir d'autres chemins et d'autres solutions. Si on avait des fourmis parfaitement déterministes qui étaient vraiment très rigoureuses à suivre les chemins, ça marcherait moins bien. Et c'est ce que montrent les modèles mathématiques.
De l'utilité du hasard, du désordre de ces fourmis qui se trompent de chemin alors que le chemin est tout tracé par les phéromones. Vous voulez réagir à cet éclairage, Catherine Bréchignac ?
Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est-à-dire qu'en fait, la marche aléatoire, c'est le hasard, et c'est par le hasard qu'on arrive à faire, à imposer, à mettre des interstices dans l'ordre et à imposer du mouvement ou bien de l'exploration, et surtout de l'exploration. J'aime bien cette. D'ailleurs, c'est ce qu'a voulu dire Boltzmann quand il a mis l'entropie égale K log de W. W, c'est l'exploration de tous les possibles. Donc, ce qu'il a exprimé, c'est pas on va vers un désordre complet. Non, c'est on va vers une exploration totale. Et comme on n'a pas des moyens gigantesques, on y va au hasard.
Et donc, c'est vraiment un aller-retour entre l'ordre et le désordre. Il faut une structure, il faut un ordre, mais il faut aussi s'échapper de cet ordre pour aller explorer ailleurs. Enfin, les deux sont indispensables. C'est assez étonnant, ça, quand même.
Oui, les deux sont indispensables. Les deux sont indispensables, c'est-à-dire qu'en fait, si vous avez un ordre parfaitement rigoureux, vous n'avez aucune fantaisie, vous n'avez pas d'imagination, vous n'avancez sur rien, vous êtes figé. D'ailleurs, l'ordre parfait, c'est la mort.
Eh oui, l'ordre parfait, c'est la mort. De quoi nous interroger, hein ? Nous interroger aussi, on y reviendra avec vous, Catherine Bréchignac, sur notre fascination pour l'ordre absolu, justement, parce que c'est la mort, au sens propre comme au sens figuré. Et juste ce que vous l'avez dit, d'ailleurs, dans le fonctionnement même de notre cerveau, à ce sujet, Catherine Bréchignac, je propose un nouvel éclairage. C'est celui du professeur de neurosciences Stéphane Charpier, qui dirige une équipe de recherche à l'Institut du cerveau et de la moelle épinière. Stéphane Charpier était récemment notre invité et nous a laissé une question pour vous, Catherine Bréchignac.
Chers collègues, je suis assez d'accord avec l'idée que le désordre, c'est peut-être la chose la plus importante, finalement. C'est-à-dire que si on regarde un cerveau en train de fonctionner, quand il est très désordonné et qu'on n'arrive pas à comprendre comment son activité est structurée, il fonctionne très bien. Par contre, quand un cerveau répond très bien à une stimulation, de manière très fiable, c'est qu'on est profondément inconscient. Voilà, qu'est-ce que ça vous inspire ?
Qu'est-ce que ça vous inspire, Catherine Bréchignac ?
Alors, moi, je suis beaucoup pas du tout spécialiste et je n'ai pas du tout les connaissances de Charpier sur le cerveau. Mais il est clair que pour moi, physicienne, c'est sûr que le fait de... C'est, au fond, le désordre est indispensable. Et il est indispensable pour plusieurs choses. Et quand toutes les études qu'il a faites sur le cerveau et en particulier sur ces ondes de la mort quand on tombe dans le coma et avant de mourir, et après cette onde de renaissance,
hein,
plus de réanimation quand on est reparti, c'est au fond un comportement collectif. Ça m'a fait penser, pour moi, dans mes expériences de physique, à un comportement collectif de tous les éléments. C'est-à-dire que tout d'un coup, quand vous avez mis les choses un peu en désordre, eh bien, elles vont se positionner suivant un ordre qui va être différent, qui va être un ordre collectif, où la réponse du système sera une réponse unique et collective.
C'est un peu
et
comme
ça, c'est, ça ne pourra se faire que si vous êtes passé par du désordre.
C'est
dans
ça,
un sens ou dans un autre.
C'est un peu, alors là en l'occurrence, vous parlez des travaux de Stéphane Charpie, effectivement sur le cerveau dans les, à l'instant de la mort et l'onde de la mort et l'onde de la réanimation. Au fond, tout se ressecoue, tout se remélange finalement, l'ordre figé, tout se remélange et c'est avec le désordre que ça peut repartir ou pas. Mais dans un autre
voilà,
ordre.
C'est-à-dire c'est ça. C'est parce que vous avez, en fait, vous rebattez les cartes.
Mais il ne faut pas non plus... trop de
alors
désordre.
Il ne faut pas non plus exagérer. C'est-à-dire que l'ordre doit être quand même prépondérant par rapport au désordre. Si vous avez quelque chose qui est complètement désordonné, vous n'en sortirez rien. Si vous avez quelque chose qui est complètement ordonné, parfaitement, rigoureusement ordonné, c'est la mort. Donc pour être entre les deux, il vous faut de l'ordre qui vous donne quand même une structure un peu costaud et derrière du désordre qui vous permet d'avancer et surtout d'explorer.
Tout est une question d'équilibre finalement, parce qu'on ne peut pas être que dans l'ordre, on ne peut pas être que dans le désordre, mais c'est vraiment, vous prenez l'image du funambule hein, dans votre ouvrage, tout est une question d'équilibre, il faut quand même plus d'ordre, enfin une vraie structure, et on va en parler philosophiquement, sociologiquement aussi ensuite, il faut une vraie structure, mais il faut absolument des appels d'air, autre chose, du désordre.
Oui, voilà, c'est ça. C'est pour ça que, par exemple, et j'en parle dans mes deux derniers chapitres, la bureaucratie, c'est la pire des choses, parce que c'est de l'ordre parfait, rigide, implacable, robotisé, c'est l'horreur.
Et c'est un peu ça aussi qui vous a poussé à écrire ce livre, parce qu'on a l'impression quand même qu'au-delà, enfin que la physicienne que vous êtes nous explique tous ces mouvements, cet ordre, ce désordre, on nous apprend énormément de choses, mais il y a aussi autre chose derrière, hein, on a l'impression.
Oui, c'est un peu ce qui m'a poussée à écrire ce livre, c'est par moments on se dit mais les animaux sont meilleurs que nous, quoi. C'est-à-dire qu'en fait quand vous voyez un banc de sardines où l'ordre est un ordre labile, un ordre mouvant qui leur permet de se déplacer et que vous voyez les migrations des humains qui vont en vacances et qui prennent leur auto, c'est impossible, ils se mettent les uns sur les autres, ils klaxonnent, ils ont des accidents, etc. parce que justement ils ne respectent pas certaines règles de mouvement.
Donc on n'est pas très bon, on y reviendra, hein, nous les humains, pour ce qui est des embouteillages, on ferait mieux de regarder les fourmis ou les oiseaux. On n'est pas très bon pour... on est soit trop dans l'ordre, soit complètement dans le désordre. C'est un peu, on pourrait le schématiser comme ça.
Alors en fait, c'est encore beaucoup plus complexe que ça, parce que je pense que l'homme ayant regardé l'ordre venant de la nature, donc il a pensé l'ordre, il s'est dit mais quand même c'est intéressant, je vais essayer de l'appliquer à la société. Et c'est en faisant cette application à la société qu'il a parfois fait des erreurs importantes, parce que les individus, enfin chaque individu a envie de faire un ordre qui lui est propre. Mmh. Et comme l'ordre des uns n'est pas celui des autres, eh bien vous finissez par avoir quelque chose qui va pas, qui tient pas, quoi. Donc en fait, c'est très compliqué d'imposer de l'ordre à des éléments pensant.
Et oui, c'est bien des plus hommes, compliqué. Donc. Et oui, des hommes, évidemment. Ah. Et chacun, on veut imposer son ordre, évidemment, à l'autre. Hein.
Et voilà. Alors, quand chacun impose son ordre sur des choses, comme les livres dans une bibliothèque, ou comme chez vous, ce que vous mettez en ordre, ça n'a aucune importance, c'est votre problème, c'est à vous. Mais quand vous commencez à imposer d'ordre, des ordres différents à d'autres qui réagissent contre, et ça donne cette tension importante qui est dans les sociétés actuelles. Et en particulier, et c'est là où je pense qu'il faut faire très attention à tout ce qui va être robotique, parce que le robot, lui, c'est parfait. C'est-à-dire, c'est oui, c'est non, vous n'avez pas du tout de possibilité de mettre un peu de désordre et de fantaisie dans quelque chose de robotique.
Et oui, ils sont bien ordonnés, les robots. Et d'ailleurs, c'est un spécialiste, chercheur en informatique, aimerait bien leur faire des erreurs, hein, justement, pour amener un peu de désordre dans ce trop bel ordre. Et puis, toutes ces questions sont d'autant plus essentielles dans les temps que nous vivons, hein, troublés, incertains et confus. Allez, on s'interroge sur la meilleure manière, avec vous, Catherine Bréchignac, de repenser et non pas d'imposer l'ordre. À l'écoute de Bernard Lavillier sur RFI, Ordre Nouveau.
Ordre nouveau, la peur bas, tenant les zones de nos droits. Je n'irai pas jusqu'à trahir, jusqu'à haïr des gens que je ne connais pas. Ordre nouveau, je n'aime pas ce que je vois. Toutes ces mesures, ces salades, on connaît ça. Si ça rassure, de sources sûres, je n'en ai qu'une. J'entends ce que tu n'entends pas. Je suis pas un ange, j'ai pas la voix, ça te dérange, pas moi. Je suis pas impur, j'ai pas la foi, mais j'ai la rage, crois-moi. C'est pas nouveau, j'irai pas sur ce terrain-là. Manipulé par des tyrans petits bras, a détruit le moindre désir de s'en sortir vivant. J'en ai encore le droit. Je suis pas un ange, j'ai pas la voix, ça te dérange, pas moi. Je suis pas impur, j'ai pas la foi, mais j'ai la rage, crois-moi.
Bernard Lavillier sur RFI, ça fait du bien par où ça passe, Catherine Bréchignac.
Hein,
surtout en ce moment. Finalement, comment résister alors à l'ordre nouveau, comme le chante Bernard Lavillier, comment résister à notre fascination, quelle qu'elle soit, dans quelque domaine que ce soit, ou notre tendance à imposer, plutôt de force que de gré, l'ordre ou notre ordre aux autres?
Alors, je pense qu'il faut garder notre... L'ordre est indispensable, comme on le sait, donc c'est... Et puis c'est aussi une efficacité. Si chacun fait n'importe quoi ou ce qu'il a envie de faire, on ne peut pas travailler tous ensemble.
Bien sûr.
Donc, à partir du moment où on est en société, on est bien obligé d'avoir un ordre pour agir ensemble. Mais je dirais que, au fond, le désordre, c'est un peu la tolérance. Vous tolérez que l'autre soit différent et vous l'avez avec vous et peut-être il va vous montrer un autre chemin qui va vous faire avancer dans une direction un peu différente. Alors évidemment, il ne faut pas que cette tolérance devienne majoritaire ou c'est un autre ordre qui s'impose. Mais je pense que c'est important d'avoir cette tolérance au désordre. Et, et donc de ne pas se mettre sur des ordres absolument rigides et figés, mais plus dans des ordres, je dirais... aujourd'hui, on est dans un monde complètement fractal.
Ouais.
Parce
un monde fractal,
on travaille en réseau.
Oui.
Ah oui, on travaille en réseau, mais en ce moment, on est dans un ordre fractal. Le monde entier se met dans un ordre fractal. On est beaucoup moins dans un ordre fermé et compact. On est beaucoup plus dans un ordre en réseau. Et je pense qu'il faut réfléchir à l'ordre de ces réseaux-là et leur donner toute leur puissance, et à ce moment-là, accepter les désordres qui s'y mettent.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, finalement, et c'est vrai que c'est ce qu'on ressent en lisant votre livre, le chantier est énorme, hein, Catherine Bréchignac, c'est qu'il faut repenser, alors à partir de ces notions d'ordre et de désordre, comment laisser de la vie émerger quelque chose de nouveau, et comment repenser l'ordre, l'organisation, la structure qui, comme vous dites, est devenue fractale et totalement différente. Mais tout en sachant qu'il faut évidemment un ordre pour faire société, évidemment, mais qu'il faut laisser des... Quoi, oui, dans l'interstice, un peu comme... C'est pas des mauvaises herbes, le désordre, mais ce serait peut-être un peu cette image-là aussi.
Oui, de toute façon, il n'y a pas de mauvaises herbes non plus, hein, il n'y a que de l'herbe.
C'est ça, il n'y a pas de bon ordre ou de mauvaise ordre, il n'y a pas de bonnes herbes ou de mauvaises herbes. C'est nous qui... Donc il faut aussi changer notre jugement. C'est étonnant aussi que ça vienne de la part d'une physicienne comme vous, Catherine Bréchignac, de quelqu'un qui a vraiment les pieds sur terre et qui a à cœur d'étudier les mystères, les ordres et les désordres de la nature, que nous vienne cette réflexion de dire il faut repenser l'ordre, oui. Il faut le rendre plus mouvant, il faut être plus funambule, plus léger.
Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être rigoureux.
Eh oui.
Le désordre ne veut pas dire le manque de rigueur. Hein. D'ailleurs, il faut comprendre le désordre. Il faut vraiment. Ça ne veut pas du tout dire qu'il faut un manque de rigueur. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai mis comme apologue cette fable que j'aime beaucoup du funambule qui montre que finalement il a besoin d'un bâton pour marcher sur le fil et que le bâton ça l'entrave mais d'un autre côté ça lui permet d'avancer.
C'est ça, hein. C'est votre, vous citez un très 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 joli petit poème sur lequel je renvoie nos auditeurs, Le danseur de cordes et le balancier, un poème de Jean-Pierre Clarisse de Florian, et effectivement le premier vers c'est sur la corde tendue un jeune voltigeur apprenait à danser et ça se termine dans vos désirs fougueux vous causent quelques peines, c'est le balancier qui vous gêne mais qui fait votre sûreté. Donc comment bien balancer, comment rester funambule, finalement de comprendre, et ça on en revient aussi à votre premier essai, hein, l'irrésistible envie de savoir, Catherine Bréchard, Chignac, le fait de comprendre cette notion d'ordre, de désordre, de le mettre en image, dans la nature, de le voir, permet aussi peut-être de faire un peu bouger nos esprits, parfois, parfois un peu figés.
Oui, parce qu'on s'était fait une idée aussi de l'ordre a priori. Par exemple, j'ai tout un passage où je raconte l'histoire de l'ordre des choses. Mmh. Pendant un moment, on pensait que l'ordre était intrinsèque. Donc on ne pouvait pas le toucher, on ne pouvait pas le bouger, c'était l'ordre des choses. Et même Bourdieu, on parle de l'ordre des choses. Donc en fait, c'est là où il faut repenser les choses, se dire mais non, mais on est peut-être parti dans une impasse. L'ordre, c'est parfait, c'est indispensable. Et d'un autre côté, comprenons ce que ça veut dire et après, essayons de l'utiliser à bon escient.
Merci infiniment, Catherine Bréchignac, d'avoir été en direct avec nous par téléphone, sur le fil.
Oui, merci à vous, Caroline.
Sur le fil, j'ai envie de dire à tous les sens du terme, parce que vous étiez au téléphone, vous avez parlé du funambule, et puis grâce à vous, on comprend l'utilité de l'ordre et du désordre. Peut-être qu'on va arriver enfin à repenser nous-mêmes notre rapport à l'ordre et au désordre. Je rappelle le titre de votre ouvrage, La sardine et le diamant, qui vient de paraître aux éditions du Cherche Midi. Merci, Catherine Bréchignac, et à bientôt.
À bientôt.
Sur internet www.rfi.fr.
Autour de la question, oui, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous réécouter, à nous podcaster à volonté sur toutes vos applications, RFI Pure Radio, Spotify et autres. Au plaisir de vous retrouver demain, chers amis auditrices et auditeurs, pour une émission un peu spéciale en compagnie du moine bouddhiste Mathieu Ricard, du philosophe Alexandre Jolien et du psychiatre Christophe André. Tous trois viennent de publier l'abécédaire de la sagesse. Plus utile que jamais, autour de la question, est-il possible de devenir sage ? Piste à suivre ou pas, demain, c'est vous qui voyez, avec Hugo Violas à la réalisation, Caroline Fillette en coulisses et Caroline Lachevski au micro pour vous servir. Merci pour votre écoute sans cesse renouvelée, merci pour votre curiosité. Prenez soin de vous et des autres, surtout gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. À l'écoute de RFI, c'est bientôt l'heure des informations.